écoutez RFI, les 6h en temps universel, 8h à Paris, 2h à Washington.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Nathalie Amar, bonjour à tous.
À la une de votre journal, le second tour des législatives en France, les dépôts de candidatures sont clos.
Et le décor est donc planté. Il y aura bien un barrage contre l'extrême droite. Les désistements de candidats ont été nombreux malgré des consignes pas toujours claires. Parole d'électeurs ce matin. RFI a recueilli la parole de jeunes salariés. Ils vivent en banlieue parisienne. Ils dénoncent le racisme endémique et se disent prêts à quitter le pays en cas de victoire du Rassemblement national. À la une également les États-Unis, l'état de santé de Joe Biden met le camp démocrate en ébullition à quelques mois de la présidentielle. L'ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, dit comprendre les interrogations sur l'état de santé du candidat. Au Kenya, une nouvelle journée de mobilisation hier. Les manifestants se sont très vite heurtés aux forces de l'ordre, vous l'entendrez. On parle aussi des tensions entre populations turques et syriennes sur fond de prémices de réchauffement entre les dirigeants des deux pays. Et puis football, on connaît l'affiche des quarts de finale de l'Euro de football. Les sports, c'est juste après le journal.
Il s'est mis en place tant bien que mal le barrage contre l'extrême droite en vue du second tour des législatives.
Pour la majorité présidentielle et ses alliés, mais aussi du côté de l'Union de la gauche qui avait demandé dès dimanche à tous ses candidats arrivés troisième au premier tour de se désister en cas de risque de victoire du Rassemblement national. Alors il y a bien quelques exceptions du côté de la majorité présidentielle, mais le barrage anti-RN a bien eu lieu. Au moins 214 candidats se sont désistés. Le dépôt des candidatures est clos depuis hier soir. La campagne entre donc dans la dernière ligne droite et certains pensent déjà à l'après. Un après peut-être hors de France. Sylvie Coffi a rencontré des jeunes salariés en banlieue nord de Paris, dans la ville du Bourget. Des salariés toujours sous le choc du raz-de-marée du Rassemblement national au premier tour.
Cali, chargée de clientèle, a envie de s'exprimer. Sur son ordinateur, elle ne quitte plus des yeux les résultats de ses dernières élections.
J'ai aussi regardé la carte de la France avec les votes. C'est vraiment ce qui m'a mis une claque parce que ça permet de visualiser. Je sais pas si je peux dire ça, mais quand je me dis qu'un Français sur deux a voté RN, quand je regarde autour de moi, je me dis qu'il y en a forcément un qui me regarde de travers.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'à mon visage, ça se voit que je suis d'origine étrangère, donc voilà. Je suis à l'aise dans ma peau en soi, mais vu les scores, ça m'est pas très à l'aise.
Vu les scores, elle envisage même de quitter la France et elle n'est pas la seule.
Je me sens personnellement touchée puisque de par mes origines, de par ma religion, aujourd'hui on sait qu'il y a une vraie discrimination, c'est de l'islamophobie. Hein. Et puis ce repli sur soi, il pèse dans le climat social actuel, même dans le climat des affaires, on le sent. Alors moi je suis originaire du Mali. Je suis prêt à partir. Quelques années auparavant, peut-être que j'aurais pas un discours aussi tranché, mais si clairement on veut pas de moi, je me débrouillerai.
Ce dimanche, ils iront tous voter pour faire barrage au Rassemblement national.
Et ce qui se joue dimanche, c'est peut-être moins la victoire du Rassemblement national que l'ampleur de cette victoire et la question de la majorité absolue qui donnerait des pouvoirs étendus au Rassemblement national. Et c'est dans ce contexte que plusieurs nominations ont eu lieu lors du dernier Conseil des ministres. Selon le journal Le Monde, un nouveau gouverneur militaire de Paris, un chef d'état-major de l'armée de l'air, un directeur de l'Union européenne au ministère des Affaires étrangères, 3 ambassadeurs. Et au niveau européen, Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait voir nommer Thierry Breton comme commissaire. D'autres nominations pourraient encore avoir lieu cette semaine. Situation que Marine Le Pen a dénoncée lors d'une interview hier sur France Inter. Explication Valérie Gasse.
Un coup d'état administratif. Marine Le Pen n'a pas mâché ses mots pour attaquer Emmanuel Macron. Et pour cause, elle espère que d'ici quelques jours, les Français accorderont au Rassemblement National une majorité à l'Assemblée et que Jordan Bardella sera nommé premier ministre. L'odeur du pouvoir donne à Marine Le Pen l'envie de s'en prendre à Emmanuel Macron. L'élu d'Hénin Beaumont estime que si le président nommait encore des fonctionnaires à des postes clés à quelques jours du scrutin, ce serait pour anticiper l'arrivée potentielle de son poulain à Matignon et verrouiller l'État afin, dit-elle, d'empêcher Jordan Bardella de gouverner le pays comme il le souhaite. Ce n'est pas sa première attaque contre le président. Déjà il y a quelques jours, Marine Marine Le Pen avait estimé que son statut de chef des armées était un titre honorifique, ce qui avait provoqué la colère de l'Élysée. Cette fois encore, Emmanuel Macron n'a pas voulu laisser passer. La présidence de la République a rétorqué en indiquant qu'être en responsabilité suppose du sang-froid et de la mesure, et en rappelant que depuis 66 ans, des nominations ont lieu chaque semaine, comme si la bataille de la cohabitation avait déjà commencé.
Une cohabitation où l'hypothèse d'un scénario à trois blocs, extrême droite, gauche et majorité présidentielle et alliés qui pourrait rendre de facto le pays ingouvernable ou forcer tous les partis, à l'exception du Rassemblement national, à gouverner ensemble.
Direction les États-Unis à présent. L'état de santé de Joe Biden continue de faire la une des médias.
Apparu affaibli lors du débat face à Donald Trump, parfois confus, il reconnaît une fatigue liée, selon lui, à ses déplacements à l'international. Mais ses explications ne suffisent pas à rassurer son propre camp, le camp démocrate qui commence à se fissurer sur la question du soutien à sa candidature. Hier, l'ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, figure politique respectée aux États-Unis, Nancy Pelosi, a affirmé qu'elle comprenait les inquiétudes des électeurs. Récit à Atlanta, Edouard Maille.
Dans une interview à la chaîne de télé MSNBC, Nancy Pelosi a affirmé que les inquiétudes sur l'état intellectuel de Joe Biden étaient légitimes.
He has a bad night.
Il a eu une mauvaise soirée, mais je pense qu'il est légitime de se demander est-ce un épisode ou un état permanent. Donc quand les gens se posent cette question, c'est légitime. Et pour les deux candidats.
Après avoir vanté le bilan du président, Nancy Pelosi s'est dite en faveur d'un examen pour déterminer les capacités de Joe Biden, un examen que devrait également faire Donald Trump, selon elle.
Les deux candidats se doivent de faire n'importe quels examens que vous voudriez leur faire passer en termes d'acuité mentale et de santé. Les deux candidats.
Nancy Pelosi est aussi revenue sur les divisions du Parti démocrate sur la candidature de Joe Biden.
Les gens sont très préoccupés. Il y a une division. Certains se demandent comment soumettre un processus et ce qu'il est possible de faire. Et d'autres disent « Joe est notre homme, on l'adore ».
Mais les critiques sont de plus en plus fortes. Ce mardi, le représentant du Texas, Lloyd Doggett, a été le premier député démocrate à publiquement exiger le retrait de Joe Biden. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Et toujours aux États-Unis, c'est la première conséquence concrète de la décision de la Cour suprême qui a étendu cette semaine l'immunité présidentielle de Donald Trump. L'ex-président devait connaître sa sentence dans le procès de l'affaire dite Stormy Daniels la semaine prochaine. Finalement, ce sera le 18 septembre prochain, soit avant la présidentielle, mais après la primaire du Parti républicain.
RFI 8h07 à Paris, une nouvelle journée de mobilisation hier au Kenya.
Et près d'une semaine après le retrait de la loi de finances qui fait suite à la répression meurtrière des manifestations à Nairobi. La contestation se poursuit à l'appel de la jeunesse. À Nairobi, plusieurs centaines de manifestants se sont rendus hier en centre-ville, mais se sont très vite heurtés aux forces de l'ordre. Tout était mis en place, Gaël Lalex, pour éviter les rassemblements.
C'est en costume cravate que Kazmo Makaoré, jeune pianiste, est venu manifester. Il laisse les armures aux policiers, lui préfère la tenue de citoyen.
Je suis dans la rue pour demander justice, pour demander que le gouvernement arrête de nous tuer, pour demander la paix. Quand on dit « Ruto doit partir », on n'appelle pas à l'anarchie. On appelle la jeunesse à demander la fin de la corruption, une nouvelle élection et le retour de l'état de droit.
À chaque rassemblement, la police tire des gaz lacrymogènes, elle sort les canons à eau. Réfugié dans un hall d'immeuble, Michel n'en peut plus.
La police devrait protéger les gens, mais dans ce pays, elle les harcèle. William Ruto est un menteur. Il se moque de la jeunesse. Pourtant, la jeunesse représente la majorité des Kenyans. Et elle parle d'une seule voix. Alors, ils déploient leur nez pour nous effrayer. Vous entendez ? C'est mal. C'est de la folie pure.
La loi de finances est bien loin maintenant dans les esprits des manifestants. Ce qu'ils demandent désormais, c'est entre autres la fin des violences policières. Brenda s'interroge sur l'état de droit dans son pays.
J'ai peur d'être blessée, d'être arrêtée, que mes amis soient arrêtés. Vous pouvez marcher et vous retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Des manifestants sont toujours portés disparus, donc c'est effrayant. Cet usage excessif de la violence m'interroge. Est-ce que William Ruto veut vraiment nous écouter ? Je ne me sens pas entendue.
William Ruto a lancé ce week-end les préparatifs pour un dialogue avec la jeunesse. La génération Z, quant à elle, appelle à poursuivre la mobilisation jusqu'à dimanche. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Au Proche-Orient, le ministère palestinien de la Santé annonce qu'une frappe israélienne a visé un camp de réfugiés près de la ville de Tul Karem.
C'est dans le nord de la Cisjordanie occupée. La frappe a fait 4 morts, selon le ministère. Israël affirme de son côté qu'elle visait une cible terroriste à Gaza. Cette fois, ce sont des milliers de familles palestiniennes qui ont fui hier plusieurs secteurs du sud, poussés sur les routes après un ordre d'évacuation de l'armée qui fait craindre une nouvelle opération militaire d'envergure contre le Hamas.
On parle à présent, Jeanne, de ces tensions entre populations turques et syriennes.
Ils font la une de l'actualité depuis plusieurs jours. En Turquie, l'arrestation d'un Syrien soupçonné de harcèlement sur une fillette de son entourage a déclenché des expéditions punitives dans plusieurs villes. Côté syrien, des violences ont éclaté contre la présence militaire turque dans le nord, faisant 7 morts. Ces violences qui surviennent dans un contexte de réchauffement diplomatique entre Ankara et Damas. Explication, Céline Pierre Magnani.
La propagation de violences anti-syriennes dans plusieurs villes a laissé craindre un embrasement dans toute la Turquie ces dernières heures, mais le pire semble pour le moment évité. Le pays accueille près de 3,2 millions de réfugiés syriens ayant fui la guerre contre le régime de Bachar el-Assad depuis 2011, mais la grave crise économique qui touche la Turquie a transformé les réfugiés syriens en boucs émissaires ces dernières années. L'une des priorités du président Erdogan est donc, je cite, de renvoyer les Syriens chez eux, c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière, dans une zone tampon de 30 km qu'il souhaite toujours établir. Il devra pour cela organiser une nouvelle intervention en Syrie, vue comme une violation de l'intégrité territoriale par Damas. Cela ne l'a pas empêché de déclarer vendredi 28 juin, je cite, qu'il n'y avait pas de raison de ne pas reprendre des relations diplomatiques avec la Syrie. Les violences anti-turques de ces derniers jours dans le nord-ouest de la Syrie, contrôlées par Ankara, s'inscrivent donc dans un contexte géopolitique tendu, où les groupes armés et les populations sur place craignent d'être livrés en pâture au régime de Damas. Céline Pierre Magnani, Ankara, RFI.
Et enfin, la situation en Syrie, au cinéma. On parle d'un film, à présent, Les Fantômes. Il raconte l'histoire vraie d'un groupe d'activistes qui va traquer des criminels de guerre du régime de Bachar al-Assad. Le thriller avait fait sensation en mai dernier au Festival de Cannes. Présentation, Elisabeth Le Quéré.
C'est un thriller sans effet de manche, un film d'espionnage qui joue avec les nerfs. Sur le campus de l'université de Strasbourg, Hamid se dit étudiant. En réalité, c'est un rescapé de la prison de Saïd Naya à Damas. Et il est sur les traces de son ancien bourreau dont le visage lui est inconnu, puisque le sien, pendant les interrogatoires, était recouvert par un sac. Jonathan Millet.
En fait, pour un projet documentaire, je rencontrais à ce moment-là beaucoup de réfugiés de guerre syriens. Il y a vraiment eu des exactions commises par le régime et par Bachar el-Assad. Et le fait qu'elle n'ait pas été reconnue par le tribunal pénal international, notamment, amène tous ceux qui l'ont vécu à avoir du mal à revenir vers la vie. Et donc, je crois que ce qu'ils cherchent d'abord, c'est la parole, c'est leur statut de victime et c'est la justice.
Je ne peux pas rester ici.
Tu ne peux pas arrêter là.
L'acteur Adam Bessa donne au personnage une gravité, une intériorité quasi douloureuse que le cinéaste explore avec finesse et acuité, traçant avec virtuosité le portrait d'un homme que sa recherche conduit aux confins de la folie.
C'était Elisabeth Le Quéré du service culture.
Merci Jeanne Bartoli et à tout à l'heure. C'était RFI Matin jusqu'à 10h avec un invité exceptionnel, le Premier ministre haïtien Gary Conille en visite aux États-Unis alors qu'un premier contingent de policiers kényans venus prêter main forte aux forces de sécurité pour lutter contre les gangs est arrivé à Port-au-Prince. Ce déploiement a pris du temps. Les gangs en ont-ils profité pour se réorganiser? La réponse de Gary Conille.
Probablement, oui, je présume que les gangs sont en train de se positionner, mais ça je ne sais pas. Mais ce que je veux dire pour sûr, c'est que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure que dans un délai pas trop lointain, l'État reprendra le contrôle de tout le territoire national.
Entretien avec notre correspondant à Washington, Guillaume Nodin, à suivre à 9h15. À la une encore, la France dans l'entre-deux-tours des législatives. Les consignes de désistement face au Rassemblement national ont pleinement fonctionné à gauche. On en parle dans 5 minutes avec notre invité Antoine Léaumont, député sortant et candidat pour le nouveau Front Populaire. Et puis l'Ukraine en guerre et sous pression de la dette. Kiev en négocie l'effacement partiel avec ses créanciers privés français, des fonds français ou américains. On en parle avec Dominique Bayard dans Aujourd'hui l'écho. Mais d'abord, c'est le journal des sports. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Le foot et l'euro, bien sûr, au programme. D'abord, puisque l'on connaît désormais la fiche complète des quarts de finale.
À l'issue des deux derniers huitièmes de finale joués hier, Nathalie, en Allemagne, qualification de la Turquie 2-1 aux dépens de l'Autriche, qui s'est réveillée trop tard, ça arrive. Juste avant, et très logiquement, les Pays-Bas avaient aussi validé leur ticket pour le top 8. Succès net, 3-0 sur la Roumanie. Les buteurs, Gakpo, 20e minute, puis doublé de Malen dans les 10 dernière, sortie parmi les meilleurs troisièmes de poule, les Néerlandais avaient des choses à se faire pardonner. C'est chose faite pour le plus grand plaisir du latéral Denzel Dumfries.
Je suis très fier de la prestation de l'équipe. Nous avons bien joué, nous avons joué avec beaucoup de concentration, nous nous sommes créés énormément d'occasions. Nous aurions pu plier l'affaire plus tôt, c'est un peu de ma faute. D'ailleurs, j'ai péché dans le dernier geste, mais dans l'ensemble, je suis fier de l'équipe parce que nous nous sommes battus jusqu'à la fin en démontrant tout le talent qu'il y a dans cette sélection. Les leçons du match face à l'Autriche ont été retenues. Nous avons beaucoup échangé la semaine dernière. Ça s'est vu dans notre pressing, dans notre conservation du ballon. En sortant du match face à l'Autriche, nous n'étions pas satisfaits et cette fois, nous avons été bons.
Denzel Dumfries et les Bataves qui croiseront en quart samedi les Turcs, juste après Angleterre-Suisse en direct sur RFI. La veille vendredi, 16h TU, le choc Espagne-Allemagne. Et juste après, en intégralité également sur la radio du Monde, Portugal-France. Un résultat de Copa América aux États-Unis avec le nul 1 partout du Brésil. Face à la Colombie, la Seleção affrontera l'Uruguay en quart samedi.
L'actualité, Olivier, c'est aussi le cyclisme, le Tour de France où le patron a parlé hier.
Il aura suffi d'une étincelle, enfin d'un col, surtout le galibier, pour voir Tadej Pogacar a rappelé à tout le monde que le boss, c'était lui et que les autres, les velléitaires, n'étaient sans doute là que pour l'admirer. Il s'est adjugé la quatrième étape donc et pris 50 secondes d'avance sur son principal rival, le Danois Vingegaard. Le Slovène a frappé un grand coup et cela s'entend au micro de nos confrères américains de la chaîne Peacock.
I'm super happy. This was,
Oui, je suis très heureux. C'était le plan qu'on s'était donné et nous l'avons plutôt bien exécuté. Donc j'ai de quoi être satisfait. C'était l'étape parfaite et la finir en solitaire, c'est incroyable. Je suis ravi. Je voulais frapper fort. Je connaissais plutôt bien ce tracé. Je me suis entraîné ici durant de nombreuses semaines. Ça ressemblait presque à une étape à la maison avec les passages à Sestrière et Montgenèvre. C'était vraiment sympa de rouler ici. J'avais confiance en moi au départ et les jambes étaient là. Donc je me devais d'essayer.
Ouais, c'est super sympa d'écraser tout le monde comme ça sur un coup. Retour au plat pour la cinquième étape aujourd'hui. 177 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas.
Et votre retour à vous, Olivier Pron, pour d'autres infos sportives. 9h42, à tout à l'heure. L'Ukraine parviendra-t-elle à échapper aux défauts de paiement? Il ne lui reste plus qu'un mois pour trouver un accord avec ses créanciers privés. Bonjour Dominique Bayard.
Bonjour Nathalie.
C'est aujourd'hui l'économie avec vous. Une négociation, cette négociation est particulièrement ardue, évidemment, sous la pression de la guerre.
Oui, au lendemain de l'offensive de la Russie, plusieurs fonds, dont l'américain BlackRock, le français Amundi, acceptent de bon gré un moratoire sur les remboursements de cette dette. Ils deviennent alors des alliés objectifs de l'Ukraine, mais il reste des financiers. Ils ont besoin de revenus à court terme pour satisfaire leurs clients, ceux qui leur ont confié leur argent. Le moratoire expire donc le 1er août prochain. Pas question pour eux de le prolonger une deuxième fois, comme le demande l'Ukraine, ce qu'ont accepté les créanciers bilatéraux, c'est-à-dire les États. En plus du nouveau moratoire, Kiev leur demande d'effacer 60% de cette ardoise à 20 milliards de dollars. Au maximum, ils renonceront à 20% seulement de leurs créances.
Dominique, malgré l'aide occidentale, l'Ukraine est aujourd'hui à court d'argent.
Alors, les 50 milliards de dollars promis en juin par le G7, plus le prêt américain à 60 milliards, enfin voté par le Congrès, lui donne de l'oxygène. Mais cet argent n'est pas encore versé et il sera fléché essentiellement vers les dépenses militaires. L'Ukraine a donc dans l'immédiat un sérieux problème pour boucler son budget. Elle est à court de cash, selon le FMI. Donner la priorité aux créanciers dans cette crise de trésorerie revient à sacrifier les salaires des fonctionnaires ou des dépenses sociales, voire militaires, impensables pour le président Zelensky. La dette publique de l'Ukraine a augmenté de 50% depuis le début de la guerre. Elle représentera l'équivalent de son PIB d'ici la fin de l'année.
Que se passera-t-il, Dominique, si l'Ukraine est acculée au défaut?
Alors techniquement, pas grand-chose, étant donné que l'Ukraine ne se finance plus sur les marchés depuis le début de l'offensive russe. Mais en termes de réputation, ce serait du plus mauvais effet. Un pays en guerre soigne en général la relation avec ses créanciers. créanciers. Il est très rare qu'il fasse défaut. La Russie l'a fait en 2022, mais c'était un défaut technique entraîné par les sanctions occidentales. L'Irak l'a fait dans les années 80. Elle était en guerre contre l'Iran. Ces deux pays, Irak et Russie, disposent de ressources abondantes du pétrole qui rassurent les prêteurs. Ce n'est pas le cas de l'Ukraine. Elle voit au contraire son économie se rabougrir à cause des destructions de ses infrastructures dans les combats. Son PIB a perdu un quart de sa valeur en 2 ans, pas très sécurisant pour des créanciers qui, en temps de paix, se basent sur les perspectives de croissance pour prêter de l'argent.
L'Ukraine dit vouloir aboutir à une solution dans les prochaines semaines.
Oui, mais aucune ne paraît vraiment satisfaisante. On voit mal les États occidentaux payer pour l'Ukraine. Cela signifierait que les contribuables américains ou européens renflouerait un créancier privé, une option politiquement indéfendable. Mais si l'Ukraine fait défaut, cela veut dire que les États alliés de l'Ukraine font désormais peser le coût de la guerre sur le privé. Pas vraiment rassurant sur la solidité de leur soutien.
Dominique Bayard, merci à vous pour aujourd'hui l'économie. Retour à la France, la campagne pour le second tour des législatives avec notre invité. Bonjour Antoine Léaumont.
Bonjour.
Député sortant de la France Insoumise, en campagne pour le second tour dans l'Essonne, en région parisienne, sous la bannière du Nouveau Front Populaire. Dimanche, il y aura donc finalement moins de 100 triangulaires, puisque plus de 210 candidats ont renoncé dans l'entre-deux tours pour barrer la route au Rassemblement National. La gauche s'efface dans presque toutes les circonscriptions où elle était arrivée troisième. La consigne très claire donnée par les dirigeants des partis du NFP de faire barrage au RN a fonctionné à plein régime, Antoine Léaumont. Les candidats l'ont massivement suivi. Qu'en sera-t-il cependant des électeurs ?
Bah écoutez, je souhaite que les électeurs nous donnent à nous une majorité, parce que si les électeurs choisissent de voter pour des candidats du Nouveau Front Populaire, eh bien, dans les quelques jours après notre arrivée au pouvoir, nous ferons le SMIC à 1 600 € et nous abrogerons la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Je pense que ça vaut le coup quand même d'élire des députés du Nouveau Front Populaire.
Mais quand dans le Calvados, un insoumis se désiste au profit d'Elisabeth Borne, l'ex-première ministre, dont vous n'avez cessé de dénoncer les méthodes, le recours au 49-3, le projet, la réforme des retraites que vous promettez d'abroger, est-ce que ça ne risque pas d'apparaître incohérent ?
Je crois pas, parce que
c'est précisément ce que dénoncent les abstentionnistes, ceux qui se détournent de la politique, cette incohérence dans le discours et dans les actes.
Il y a pas d'incohérence, parce que pour nous, ce qui prime devant tout, là, on a des désaccords avec Madame Borne, qui sont d'abord des désaccords économiques. Nous ne sommes pas d'accord avec cette réforme des retraites. Nous l'abrogerons. Nous avons des moyens de financer une réforme des retraites à 60 ans, c'est-à-dire encore de diminuer l'âge de départ en retraite, notamment en augmentant les salaires, et notamment en augmentant les salaires des femmes, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais 80% des salariés au SMIC sont des femmes. Donc quand on augmente le SMIC à 1 600 €, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les salaires des femmes et qu'on participe à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Mais il y a quelque chose qui, en revanche, nous séparera toujours du Rassemblement National de manière irréductible, d'une certaine manière. Quand Jordan Bardella dit que son urgence, c'est la suppression du droit du sol, eh bien, c'est une mise en cause fondamentale de notre identité nationale depuis que la France est la France, c'est-à-dire depuis 1789. Au moment où on invente le drapeau tricolore et la Marseillaise, eh bien, on invente aussi le droit du sol et l'accès à la citoyenneté par ce droit du sol. C'est une remise en cause fondamentale de ce que nous sommes comme Français. Moi, dans ma famille, j'ai des Italiens et des Belges. Alors, ça se voit pas sur ma tête que je suis un descendant d'immigrés. Mais il y a plein de gens qui subissent le racisme, qui subissent la haine religieuse en raison de ce qu'on suppose être une religion qu'ils auraient ou de ce qu'on suppose être une origine qu'ils auraient.
Et donc vous dites, désister en faveur de candidats avec qui on n'est pas d'accord à 100%, c'est un sacrifice nécessaire pour éviter le pire, c'est ça ?
C'est un sacrifice nécessaire pour la République et l'idée que nous nous faisons de la France et du peuple français, oui. Et je crois que y a beaucoup de nos compatriotes en ce moment qui souffrent de ce racisme, qui souffrent de cette haine. Et quand je dis qu'ils souffrent, c'est y compris des violences physiques dont on parle. À Lunel, il y a quelques jours de cela,
dans le sud de la France,
il y a 4 personnes qui ont failli noyer une personne en le traitant de sale arabe, un jeune étudiant de 19 ans. C'est ça, en fait, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. C'est des violences racistes qui s'expriment dans la société et qui sont couvertes par un pouvoir politique. Donc, Madame Borne, je suis en rien d'accord avec elle sur le plan économique. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous séparera toujours, elle et nous d'un côté et le Rassemblement National de l'autre, c'est cet attachement à la République française, cet attachement au peuple français et à ce que veut dire être français pour nous qui sommes des républicains convaincus.
Alors c'est évidemment une campagne au pas de charge, à l'enjeu historique, campagne sous tension, vous venez de le dire, lorsque Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron de coup d'état administratif après des informations de presse sur de possibles nominations dans l'administration cette semaine avant le second tour. L'Élysée a appelé la députée RN au sang-froid. Qu'est-ce que cela vous inspire, cet épisode? Ça laisse augurer, en cas de victoire du Rassemblement National, une cohabitation particulièrement musclée?
Mais de toute évidence, si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, elle nommerait dans l'administration des gens qui sont des gens de son avis, qui sont d'accord avec elle. Donc elle voudrait des gens à sa botte pour faire dans l'administration exactement ce qu'elle veut faire. Normalement, l'administration, elle a un devoir d'obéissance. Donc ce qu'elle dit en disant cela, c'est qu'elle met en cause l'administration de l'État. Et ça, c'est la démonstration que Marine Le Pen n'est pas prête à gouverner le pays. Parce que Marine Le Pen et Jordan Bardella, s'ils veulent mettre en place des gens qui sont du Rassemblement National à l'intérieur de l'administration, c'est un problème.
Alors eux, ils disent le contraire. Ils disent que le gouvernement est prêt, qu'ils sont largement préparés depuis,
c'est pas le cas,
depuis des années, à prendre le pouvoir. Alors à ce stade, c'est très compliqué de faire des projections fiables en siège pour le second tour, Antoine Léaumont, notamment compte tenu des désistements qui sont intervenus jusqu'à hier soir. On va aller sur les hypothèses. Si vous êtes en position de gouverner, le nouveau Front Populaire. Le président de la République appellera à Matignon une personnalité issue de vos rangs. Qui, votre préférence à vous, elle va où?
Moi, ma préférence personnelle, elle est évidemment dans le rang des Insoumis. Parce que le programme que nous avons décidé de mettre en place, c'est un programme, je l'ai dit, qui commence par le partage de la richesse, qui commence par l'augmentation du SMIC et qui commence aussi par la remise en place d'impôts comme l'impôt de solidarité sur la fortune.
Mais et vos partenaires de la coalition sont d'accord là-dessus?
Non, je crois que sur ce point-là, on avait un point d'accord qui était que le groupe le plus nombreux à l'Assemblée nationale propose un candidat ou une candidate au poste de Premier ministre. Je crois que dans les rangs des Insoumis, il y en a plusieurs qui peuvent exercer cette fonction. Donc, c'est pas le nombre de candidatures, d'une certaine manière, qui manquerait, ni d'ailleurs pour former un gouvernement dans l'ensemble des forces de gauche. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que derrière les questions de personnes, d'individus qu'on va mettre derrière le poste de Premier ministre,
Je voudrais juste finir la phrase.
Parce que sinon, ça veut rien dire. Si je finis pas mes phrases, ça n'a pas de sens.
Terminez très rapidement.
Je vous dis que derrière les questions qui sont associées aux personnes, il y a des questions de ligne politique. Ouais. Ça n'est pas la même chose, par exemple, de choisir François Hollande comme Premier ministre.
Absolument.
Ou de choisir Clémence Guettet, Emmanuel Bompard ou Mathilde Panot ou Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs comme Premier ministre.
Justement, sondage Ipsos du 27 juin, les Français interrogés sur leur perception de potentiel Premier ministre, 78% d'entre eux disent que ce serait une mauvaise chose ou une très mauvaise chose que Jean-Luc Mélenchon occupe cette fonction. Clairement, ce n'est pas le bon scénario pour la suite.
Ça m'amuse beaucoup parce que demander à des gens de droite si Jean-Luc Mélenchon ferait un bon Premier ministre, évidemment, vous allez avoir un résultat qui est assez
déplorable.
Il est
la personnalité qui suscite le plus de rejet, davantage que Marine Le Pen dans ce sondage-là, en tout cas, dans cette étude-là.
Oui, bien sûr, mais je crois pas que ce soit vrai. Il suffit, si vous voulez, de venir avec moi en porte-à-porte dans ma circonscription et vous verrez si Jean-Luc Mélenchon suscite du rejet. C'est plutôt l'inverse, en réalité.
Mais dans votre propre parti, sa personnalité divise?
Non, pas du tout.
Ah
dans
bon,
mon parti, sa personnalité divise pas. Enfin, essayez de me trouver un insoumis qui dira que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon divise, mais
Clémentine Autain, François Ruffin, on va pas tous les citer.
Si vous allez dans ma circonscription, vous verrez que pour beaucoup de gens, Jean-Luc Mélenchon constitue un bouclier contre le racisme. Il y a beaucoup de gens qui sont reconnaissants à Jean-Luc Mélenchon d'avoir eu des mots très forts sur la question du racisme, sur la question de la haine que véhicule le Rassemblement National. Et pour ce qui me concerne, vous savez, moi j'ai mis ma tête à côté de Jean-Luc Mélenchon sur mon tract et j'ai fait 43%. Donc si Jean-Luc Mélenchon suscitait du rejet, je pense que j'aurais fait un score moins important que 43%. Enfin, je ne sais pas si vous pensez qu'une progression de 7000 voix, c'est un rejet de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon.
C'est sur une circonscription particulière, je vous parlais d'un sondage national.
Je vous dis une chose, c'est que derrière les questions de personnes, et la raison pour laquelle on essaye en ce moment de faire détester Jean-Luc Mélenchon à beaucoup de gens, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon a proposé une ligne politique qui est une ligne de rupture avec le capitalisme. Et la raison pour laquelle on essaie de vous le faire détester, c'est parce que il défend d'abord vos intérêts.
Antoine Léaumont, député sortant candidat du Nouveau Front Populaire dans l'Essonne, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Dans une minute, l'actualité africaine.
Priorité santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Comment changer le regard sur le bégaiement? Quelle prise en charge pour la personne qui en souffre? Comment l'aider à être comprise et à s'accepter telle qu'elle est?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Lire est un plaisir, qu'on se le dise. Pendant un mois, 5000 événements sont organisés partout en France pour sensibiliser les jeunes à la lecture, avec un thème pas étonnant avant les JO, le sport. Un projet cher à Régina Chando, la directrice du Centre National du Livre.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI, Vous m'en direz des nouvelles est à Avignon avec Jean-François Cadet.
Gwenaëlle Morin se lance à l'assaut du Don Quichotte de Cervantes et éprouve l'esprit chevaleresque du grand théâtre de la vie. Tandis que dans Après les ruines, Bernard Sinapi et ses artistes européens racontent l'exil en mêlant fiction et documentaire, musique live et jeux d'ombre.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.